France Bleu Brésil, l'invité du dimanche.
Et notre invité ce dimanche, Claude Perron. Son livre Pearn Beyond, une vie de marin-pêcheur bigoudin. Bonjour Claude.
Voilà, bonjour Dema Danol. Alors, puisque le titre du livre commence par des mots en breton,
ouais.
Pearn Beyond, Petit Perron.
Petit Perron, ce nom qui résonne aux oreilles du peuple bigoudin, évidemment, parce qu'on vous connaît de longue date. On vous connaît surtout depuis, évidemment, le grand-père et les nombreux bateaux qu'il possédait dans le port bigoudin.
Alors, le premier bateau qui a porté ce nom, qui était son surnom, parce qu'il était tout petit, il faisait à peine 1m50. En 1917, quand il est allé à Brest pour le service militaire, et pour lequel il a été réformé parce qu'il était de constitution chétive, infantilisme et ainsi de suite, qui explique peut-être, bon, c'est une hypothèse, que je suis là pour en parler aujourd'hui, puisqu'il n'est pas allé à la guerre de 14-18. Et donc, trois bateaux ont été construits avec ce nom-là. Donc le premier en 1925, le deuxième en 1943, pendant la guerre, là, il a fait un petit exploit, puisqu'il a payé la construction du bateau en 15 jours de marée de Congre vendu à Concarneau.
Ah oui.
Il y avait pénurie à l'époque. Et puis le dernier a été construit par mon père et son frère en 69.
Vous l'aurez compris, donc Claude Perron est fils, petit-fils de marin-pêcheur. Il est aussi, vous le connaissez, comme contributeur aux revues Cap Caval, Histoire et patrimoine d'un pays bigoudin. On retrouve également ses écrits dans une autre revue, je crois, qui est aussi légendaire en Bretagne. Vous n'arrêtez pas d'écrire, finalement.
Les Cahiers d'Iroise à Brest, et qui fêtent leurs 70 ans cette année, comme moi.
Et donc, vous aviez envie d'écrire un bouquin sur votre famille, sur le patrimoine maritime du Guilvinec, sur l'évolution maritime, le matériel maritime aussi, dans un bouquin, et ça fait un moment que ça vous traîne dans la tête.
Je n'avais pas exactement envie d'écrire un livre. L'historique est simple. J'étais à un site dans le quartier de la Cavale Blanche à Brest, et j'avais suivi un stage de patrimoine à l'école. Et nous avions rencontré M. Henwood, qui était le directeur des archives de la marine à Brest à l'époque. Et j'étais un des seuls à avoir des inscrits maritimes dans la famille. Et donc, il m'avait mis dans un coin de la tête une petite phrase: quand vous serez en retraite, vous pourrez écrire l'histoire de votre grand-père en venant chercher ici dans les archives. Et c'est ce que j'ai fait à ma retraite. J'ai passé un diplôme universitaire au CRBC, à l'UBO. Et puis, j'ai commencé mes recherches. Et finalement, j'ai fait le plan de
ce bouquin,
si on peut appeler ça un bouquin à l'époque, mais comment dire, j'ai rempli les cases au fur et à mesure en écrivant autre chose. Et mon bouquin sur les noms de bateaux du pays bigoudin est paru en 2014. Et puis j'ai continué encore en publiant dans Cap Caval, dans les Cahiers d'Iroise, et sur mon blog. Et donc, au bout du compte, il y a un an et demi, deux ans, j'étais arrivé à 180 pages en format A4, donc je l'ai montré à des historiens, dont Serge Duigou, qui m'a fait une très belle préface, des journalistes, des amis écrivains qui bretonnants, francophones, qui m'ont dit: c'est viable, tu peux publier un livre. Et c'est ce que j'ai fait, je l'ai fait en auto-édition.
Alors on n'est pas dans un roman, mais on découvre que c'est écrit à la première personne, vous parlez à la place de votre grand-père.
Voilà, alors dans un premier temps, je raconte mes souvenirs pendant 15 pages de ce que j'ai connu de mon grand-père, puisque j'avais 7 ans quand il est décédé, et ce qu'on m'en a dit, des gens que j'ai rencontrés qui m'en ont parlé, parce qu'il était très connu, j'ai pu le vérifier, de la Pointe du Raz jusqu'à l'île de Groix.
Oui, les bateaux, le nom en tous les cas était connu.
Hein. Oui, oui. Et lui, en tant que personnage, il passait pas inaperçu non plus. Et donc, à un moment donné, il y a une bascule qui se fait. J'étais avec lui dans le garage de mes parents, qui avaient construit une maison neuve à Guilvinec. Et mon autre grand-père était maçon, avait construit le garage. Et là, je me retrouve avec donc mon grand-père Jean-Marie Perron, Pearn Beyond, moi l'aîné des petits-enfants, et il m'offre un couteau suisse. Et c'est après que j'ai compris qu'il savait qu'il était condamné, et il est mort quelques mois après. Et c'était une transmission intergénérationnelle. Donc un geste symbolique, c'était pas seulement pour m'offrir un couteau, je pense.
Parce qu'un,
et donc, si
bon
vous
marin...
voulez, ce geste a induit un devoir de mémoire vis-à-vis de lui, quoi. Voilà. Et le bouquin, c'est un peu le résultat de ça aussi, quoi.
Il s'attendait à ce que vous deveniez marin-pêcheur, parce qu'il disait un bon marin devrait toujours avoir un bon couteau dans la poche.
Oui, bien sûr. Mais bon, non, il m'a quand même déconseillé. Et dans la famille, on nous a déconseillé. Dans ma famille, tout le monde est soit enseignant, soit ingénieur.
Oui, parce qu'ils ont vécu le pire, évidemment, parce qu'on va parler aussi des accidents dans ce bouquin.
Oui.
On en reparlera dans quelques instants, si vous le voulez bien. Claude Perron est notre invité. Perne Beyond, une vie de marin-pêcheur bigoudin. On en parle ce matin, c'est notre invité ce dimanche.
Vendredi 3 mai, matinée spéciale plancha sur France Bleu Braise-Isère. Mathieu Gourmelin et la charcuterie gourmande s'installent au jardin pour 3 heures de direct. Et au menu, des idées recettes.
Est-ce qu'il y aura des saucisses?
Oui, mais pas que. Des trucs et astuces pour bien réussir sa plancha.
Et des merguez? Il y aura des merguez?
On verra. Des cadeaux à gagner.
Alors ça, c'est chouette.
Et beaucoup de bonne humeur.
À table!
J'arrive! Vous venez? Matinée spéciale plancha, vendredi 3 mai sur France Bleu Braise-Isère. France Bleu.
Une nouveauté, France Bleu, on parle des heures sup avec Raphaël, extrait de son tout nouvel album sur France Bleu Braise-Isère.
Je fais des heures sup, les nouvelles du jour ne sont pas bonnes. Guerre à l'Est, effet de serre, qualité de l'air dégradé. Serré dans le métro, serré au cou, je défais mon col. État du jour impliqué, les marques sous les visages ont des marques. Pas assez de richesse, trop de désir, pas assez de bonheur pour tout le monde. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Je fais des heures sup d'amour, d'amour. Sans à l'heure, il faut bien que quelqu'un meure. Je remonte chez moi, j'allume les infos, se plonge tout droit dans les égouts. Je regarde l'heure, tu n'es pas là. J'imagine ce qui pourrait arriver, non, n'imagine pas. Dehors, il pleut sur ceux qui n'ont rien. Serré dans les tentes, sous le métro aérien. Ferme les yeux, déjà non, ne les ferme pas. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Je fais des heures sup d'amour, d'amour.
C'est très enjoué, hein. Et d'ailleurs, très surprenant de la part de Raphaël. On n'était pas habitué à ce style-là. Heure sup sur France Bleu Braise-Isère.
L'invité du dimanche sur France Bleu Braise-Isère.
Et notre invité ce dimanche, Claude Perrault, pour Perne Beyond, une vie de marin-pêcheur bigoudin. Il nous parle évidemment de sa famille, de son grand-père, de son paternel. Et alors, pour présenter Claude Perron, on le rappelle, vous êtes contributeur à deux revues incontournables en Bretagne. Vous êtes aussi photographe amateur depuis maintenant une quarantaine d'années. Mais on ne trouve pas d'image dans le bouquin.
Non.
C'est d'ailleurs une des questions qu'on vous a posées.
Voilà.
À savoir, est-ce qu'on pourrait trouver quelques-unes de vos photos dans ce bouquin? Pourquoi ne pas l'avoir fait?
Parce que j'ai fait un travail d'historien. Donc, j'ai simplement utilisé une de mes photos de ce que j'ai présenté, 50% de mes 170 expos depuis 40 ans. Ce sont des reflets sur l'eau en couleur. Donc, je l'ai mise avec la photo de mon grand-père au centre. Pour le valoriser un peu, on pourrait dire un clin d'œil, l'ancien et le nouveau, voilà. Et c'est tout. Puisque c'est mon activité principale maintenant, la photo j'en fais toujours, mais c'est plus mon activité essentielle. Quoi.
La photo et la plume, hein, puisque vous écrivez depuis de nombreuses années, on le disait, vous continuez d'ailleurs avec ce nouvel ouvrage. La plume qui vous a été un peu enseignée par un maître à penser presque, hein, Pierre-Jacques Elias.
Alors, un maître à penser qui m'a ouvert les yeux sur, en gros, sur la culture bretonne, la littérature. Pas sur la langue, d'ailleurs, c'est un reproche que beaucoup de gens lui font. C'est qu'à l'école normale, il aurait pu nous enseigner le breton, mais il ne l'a pas fait. D'ailleurs, pas à ses enfants non plus. Mais à côté de ça, si vous voulez, moi, c'est quelqu'un qui m'a ouvert les yeux sur plein de choses, qui m'a enrichi aussi. Et puis, il y a un deuxième que je ne cite pas là, qui lui m'a fait prendre conscience de ce qu'était le pays bigoudin et ses spécificités. Je dirais pas l'identité, parce que j'aime pas ce mot-là. Les spécificités du pays bigoudin, c'est Jacques Escornou qui nous a quittés il y a un an et demi, là.
Alors, vous parlez breton, mais vous n'avez pas appris le breton avec Pierre-Jacques Elias. Mais c'était peut-être pas le lieu non plus. Vous étiez à quelle école avec Pierre-Jacques Elias?
À l'école normale d'instituteurs de Quimper.
Et c'était autorisé d'apprendre le breton dans une école comme celle-là?
En 71, ça avait été mis au bac.
Ah, oui.
Et d'ailleurs, c'était, je crois que c'était le monsieur qui avait, je me souviens de son nom, il s'appelait Ropars. De Poulaouen, qui avait relancé les Festounos, qui était enseignant au lycée de Cornouailles, qui donnait les cours.
Ce livre, Bjørn Bjørn, revient donc sur l'histoire du port de Guilvinec, l'histoire de votre famille, et puis des souvenirs personnels. C'est toujours délicat de se livrer sur des souvenirs personnels, non?
Les souvenirs personnels sont des choses qu'on m'a racontées plus tôt.
Oui.
J'ai un oncle qui est toujours en vie, le troisième frère, qui lui n'a pas été marin-pêcheur puisqu'il était beaucoup plus jeune et il est devenu enseignant aussi. Et il m'a beaucoup raconté, un autre oncle qui est décédé il y a quelques années, qui m'a raconté pas mal de choses aussi. Ils n'avaient pas grand chose que leur père leur avait raconté. Il était assez. Il parlait pas trop de lui-même, quoi. Par exemple, l'épisode où il est allé en Angleterre, il a embarqué en Normandie, il est parti en Angleterre pendant 3 semaines chercher du charbon dans la région de Leeds. Ça, personne n'en savait rien dans la famille, avant que moi j'explore les registres matricules aux archives de la marine.
Oui, parce qu'il y a eu un gros travail de recherche dans les archives.
Complètement, c'est le travail de l'historien. On part toujours de documentation. La documentation, pour les marins pêcheurs, c'est d'abord le registre matricule. Et ensuite, tout ce que le service historique peut nous offrir comme ressources. Après, j'ai travaillé aussi avec les archives départementales de Quimper. Les journaux de l'époque, qui sont en ligne maintenant, ce qui facilite pas mal de choses. Et donc, peut-être quelques petites choses que j'ai trouvées dans des publications, mais très peu, très peu.
Alors, à la Marine nationale, on parle de la grande muette. Dans le monde des marins pêcheurs, on a affaire plutôt à des taiseux.
Non, un peu quand même, oui.
Ouais. Vous parlez dans ce bouquin du mentir vrai, en citant votre grand-père qui disait qu'il était peut-être un peu marseillais. C'est quoi le mentir vrai?
Alors, le mentir vrai, c'est une technique qui a été mise en avant par Aragon. Pour raconter une sorte de petite autobiographie. Et Louis Aragon, donc un écrivain très connu. Et donc, je me suis un peu inspiré de cette façon de faire. C'est-à-dire que dans ce que j'écris, je fais vivre des choses à mon grand-père qui n'a peut-être pas vécu, mais que d'autres à côté de lui ont pu vivre. Et c'était donc le contexte de l'époque que je mets en scène.
Il était communiste ?
Je ne crois pas.
Non.
Mais à l'époque, les marins-pêcheurs, c'était un peu comme les ouvriers. Le patron à bord, c'était pas, entre autres, la personne contre qui ils se battaient, c'était plutôt les marailleurs. D'ailleurs, dans le livre, on parle souvent des marailleurs. Ils se plaignaient des marailleurs, pour les prix déjà, pour commencer. Et puis, ils avaient beaucoup de griefs par rapport aux marailleurs. Il y en a encore, hein. Bon, tout ce qui est intermédiaire, dans toutes les professions, que ce soit les paysans, les marins, bon.
Alors, dans le mentir vrai, on mentait sur quoi, alors, finalement, concrètement?
On mentait?
Ouais.
Bon, finalement, on mentait pas beaucoup.
Non.
Non. Non, non. On disait des choses, mais qui n'étaient que certains pourraient imaginer qu'elles étaient fausses.
Oui.
Mais en réalité, c'est des choses qui sont produites.
C'est ça. On a affaire à des histoires qui sont tellement hallucinantes, parfois tellement spectaculaires, qu'on se dit qu'il raconte des bobards, quoi.
Ouais, non. Et par exemple, le paquebot Normandie, pour lui, c'était le plus beau bateau du monde. Il y avait un poster maintenant, qui était accroché chez lui, encadré, sous verre. Eh bien, donc, il était déjà allé en Normandie. Il avait vu les paquebots à Rouen et au Havre. Et puis, il a vu le Normandie passer devant lui, puisqu'il y avait une base de vitesse entre Pamar et les Glénans, et où on chronométrait les bateaux. Et donc, le fameux Normandie, à la première traversée de l'Atlantique, il a battu le record, ce qu'on appelait le ruban bleu. Et mon grand-père a vu le Normandie passer devant lui quand il pêchait le maquereau au large de Guilvinec.
Ouais, tout ça sont des histoires qu'on découvre dans Pirn Beyond de Claude Perron. On continue dans un instant d'évoquer ce bouquin et puis un peu votre parcours. Juste après, une chanson de votre choix, Jan van Schemener. Alors, ça parle de Pamar. Ça parle de vie maritime, là aussi, dans cette chanson.
Oui, c'est un naufrage, c'est une histoire épouvantable. Hein. C'était la flotte d'Audierne qui remontait et qui ont été pris dans une tempête juste à la pointe de Pamar.
Jan van Schemener sur France Bleu Brésil.
Baby, you know.
Jan de Fange Kemener sur France Bleu Brésil, le choix musical de notre invité ce dimanche. Claude Perrault pour Pierre Beyond, une vie de marin-pêcheur.
L'invité du dimanche sur France Bleu Brésil.
Et ça se passe en pays Bigoudin, avec comme prof, on le disait, hein, Claude, vous avez eu un prestigieux personnage connu de tous en Bretagne, Pierre Chacasselias. D'ailleurs, certains ont comparé votre bouquin, celui que vous venez d'éditer, à un cheval d'orgueil maritime.
Oui, alors, bon, je pense que c'est un peu un compliment un peu surfait. Bon, comme c'est un grand ami, je peux le dire.
D'accord.
Ce n'est pas n'importe qui non plus. C'est Loïs Graal qui a eu le prix de la ville de Carhaix pour nageur d'Aral il y a un an et demi, avec qui je fais du breton tous les mardis au Pilier Rouge à Brest avec Arskol Vrezonek. Bon, il est gentil, il voulait faire un gros compliment, mais bon, oui, je n'ai pas la prétention de faire ce qu'a fait Pierre Chacasselias. Et puis, c'est pas à mon âge que je vais commencer.
On écoutait à l'instant Jan de Fange Kemener. Alors évidemment, c'était pas une chanson très très gaie parce qu'on parle de naufrage.
Ouais, ouais.
Et d'ailleurs, je vous disais tout à l'heure que votre grand-père connaissait bien le métier, votre père aussi,
oui.
Et les risques que ça que ça représentait. Vous citez d'ailleurs quelques accidents qui ont été particulièrement lourds dans le pays du Guilvinec dans ce bouquin.
Alors il y a eu énormément de naufrages parce que on n'avait pas la météo à l'époque. La connaissance plus ou moins subjective qu'avaient les marins du temps faisait que par moment il y avait des coups de vent qui arrivaient de manière imprévue ou des coups de houle, ce qu'on appelait les lames scélérates. D'ailleurs, l'année prochaine, on va commémorer les 100 ans de la fameuse catastrophe de Pinmar. Il y a deux chaloupes ou deux canottes et deux canots de sauvetage qui ont été renversés et qui a fait 25-30 morts ou disparus à l'époque. Mais pour l'histoire personnelle de mon grand-père, avec ses deux fils, en 47, ils ont sauvé un certain nombre de membres d'équipage d'un chalutier de Lorient qui s'était mis sur les rochers au Glénan, ce qui leur a valu une citation de l'administrateur des affaires maritimes de Nantes et qui a peut-être induit aussi une vocation chez mon père qui a été 23 ans mécano du canot de sauvetage du Guilvinec, le Jean-Louis Courtès. Alors Jean-Louis Courtès, c'est aussi un sauveteur qui a été reçu à la Sorbonne, qui a eu des médailles pour énormément de sauvetage. Il a sauvé énormément de monde, et en particulier, pas tout seul, et c'était lui qui était à la tête du canot de sauvetage, le premier canot de sauvetage à moteur du pays Bigoudin, le fameux trois-mâts polonais, le Pomors, qui s'était mis sur les rochers des Étaux, en face de Kériti.
C'est là qu'on découvre l'évolution finalement technique de la vie de marin-pêcheur dans ce livre. On parle des moments dramatiques, on parlait effectivement des principaux événements qui se sont déroulés du côté de Pinmar, mais aussi des moments joyeux, parce qu'il y a plein de fêtes.
Ah oui, oui bien sûr. Il y avait les pardons, et puis à partir des années qui ont suivi la Première Guerre mondiale, ce sont surtout des fêtes profanes qui n'était plus organisé par l'Église. Et donc, on a eu, par exemple, les fêtes des Cormorans à Pinmar.
Les fêtes de Goémont aussi, non ?
Là-bas, non.
Pas dans le pays Bigoudin ?
Non. Il y avait des fêtes dans chaque port. La fête de la langoustine à l'Échiagat, au Guilvinec. Non, la langouste à l'Échiagat et peut-être la langoustine à Guilvinec. Pinmar, c'était les cormorans, avec le fameux peintre Jean-Julien Le Mordant, qui avait été blessé à la guerre de 14, qui avait animé ou dirigé des fêtes très très courues à l'époque, qui avait même des athlètes qui faisaient du gouren, qui venaient de Sker, de Rosporden, de Corée, qui venaient là. Et puis, à Pont-l'Abbé, il y avait aussi des fêtes. Alors, dans entre les deux guerres, il y a eu aussi des fêtes après le Front populaire, énormément organisées par le Parti communiste. Pont-l'Abbé, Concarneau, ils partaient avec des chalutiers. Il y avait 50 personnes sur un chalutier. On n'imaginerait pas ça maintenant.
Ça permettait de soutenir évidemment les moments creux, les vagues basses de la vie du monde marin. Alors, dans ce bouquin, vous parlez au nom de votre grand-père, puisque vous, je le disais, hein, vous utilisez la première personne pour écrire. C'est quand même un exercice tout particulier de se mettre à la place de quelqu'un, surtout quand on l'a connu, même très jeune.
Ouais, mais finalement, c'est juste une question de forme. Ouais. C'était ce que j'ai imaginé pour mettre un peu de poivre, de sel et un peu d'épices à mon récit, quoi, d'historien qui parfois peut être un peu sec, quoi. Mais par contre, je suis présent de temps en temps, je lui pose une question, le petit gamin de 7 ans, et t'as de cause, comment tu faisais, ceci, cela, tu n'avais pas peur, et ainsi de suite. Voilà, je l'aiguillonne un petit peu, et il me répond, et il m'apporte de nouveaux arguments, quoi.
Pierre de Mihan, Claude Perron, une vie de marin-pêcheur breton qu'on peut voir et on peut se le procurer hein, du côté de Brest, rue de Siam. On a également ce bouquin à Pont-l'Abbé, au Guilvinec, évidemment, au comptoir de la mer. Il y a Pinmar, il y a plein d'endroits.
Saint-Guénolé aussi.
Et puis on vous attend également très prochainement du côté du comptoir de la mer au Guilvinec pour une séance dédicace. Ce sera là le 21 mai hein, pour la prochaine date. Sinon, il y a d'autres dates à suivre. Du côté de Pont-l'Abbé, du côté du Guil, on aura également Saint-Guénolé ou encore Pinmar. Tout ça, c'est à suivre sur une page internet.
Alors,
vous avez un site.
J'ai un site qui est hébergé par Infini, qui est un hébergeur associatif basé à Brest. Et donc, il suffit de taper Claude Perron Infini et on trouve tous les renseignements concernant mon bouquin et plein d'autres choses que j'ai pu publier sur ce site par rapport à l'histoire du port du Guilvinec et du pays Migaudin aussi. Ouais. Et autres choses, et des photos et plein de trucs.
Ouais, c'est plein de renseignements, de souvenirs concernant tout le pays Migaudin. Je vous conseille ce bouquin. Merci beaucoup Claude d'avoir accepté notre invitation. Et belle journée, à bientôt.
Merci Brass, Canavo.
Avec sa série Préservée à Natae, France Bleu Braille-Zizel vous propose de voyager à travers les continents via 40 espèces du parc animalier de Pont-Scorff, qui sont ces oiseaux, reptiles et mammifères en danger dans leur milieu naturel et accueillis sur les terres de Natae. Découvrez-les avec ce tour du monde en compagnie de leurs soigneurs, aux petits soins au quotidien.
Armorlux vous invite à sa grande braderie de printemps. Du 17 au 29 avril, craquez pour nos petits prix. Prêt à porter, sous-vêtements, linge de maison, le